est-ce que vous ne croyez pas que aussi dans la recherche, dans le savoir, il y a une espèce de marché mondial? Je ne sais pas, par exemple, l'électronique, c'est Silicon Valley, c'est une partie de l'Inde, etc. Et peut-être le marché de la recherche, il commence à
s'exprimer.
Je pose des questions comme ça, non?
Pour répondre à ça, en fait, c'est une façon de répondre, mais moi je me rends compte dans mon laboratoire qu'on a beaucoup plus d'étrangers dans la recherche. Hein, des postdocs, des tests sont faits en collaboration avec un laboratoire en Chine. Donc c'est un peu comme si on avait une main-d'œuvre étrangère.
C'est bien?
Oui, mais je ne l'ai pas critiqué, mais c'est juste. Un glissement que j'ai observé ces dernières années, ce qui fait que, peut-être qu'on se dit, on fait une collaboration avec la Chine. La Chine investit énormément dans la recherche actuellement.
Ah, voilà.
Donc, ils financent, ça va nous donner de la main-d'œuvre qui va venir travailler chez nous. La thèse est faite en collaboration. Après, la personne retourne en Chine. On n'a pas besoin de lui chercher un emploi ici, chez nous.
Et les savoir-faire est perdu.
Mais cette aggravation du rapport de concurrence entre chercheurs, de quelle manière vous la ressentez?
Pour moi, c'est...
Parce que pour toi, elle est inexistante, disons. En a parlé.
Oui, mais moi j'en ai parlé parce que je pense que c'est un peu lamentable. C'est-à-dire que dans un même laboratoire, un petit groupe ne va pas bénéficier de la réflexion, du savoir et de l'expérience de personnes qui sont au même étage que lui.
Mais ça, c'est une question de personne. Certainement,
mais je pense que dans les périodes de restriction, ce genre de comportement s'aggrave.
C'est vraiment quelque chose qu'on sent plus fortement maintenant que. Passé.
Bon, j'avais déjà observé ça avant, mais j'ai l'impression que plus il y a de la restriction, plus ça devient...
C'est la mentalité même des chercheurs qui est en train de changer.
Et en même temps, il y a des mouvements comme C'est bon la recherche, qui sont des mouvements collectifs. Donc comment ça s'est... D'un côté, il y a un individualisme qui monte, et de l'autre côté, il y a quand même eu un mouvement qui est quand même intervenu, qui a eu un poids, je pense.
Oui,
vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est un peu contrasté, non, quelque part. Et quel est le rôle aujourd'hui, selon la recherche, parce que...
Disons que, on vient juste de faire l'université de selon la recherche, il y a quelques jours, et justement, je posais la question aux gens qui l'organisent. Je dirais que depuis 2004, en fait, il y a de moins en moins de participants. Même si les débats sont vraiment Mais le problème aussi dans les laboratoires, c'est que y a la nouvelle génération qui arrive, qui apprend à naviguer avec l'AMR et avec tous ces systèmes qu'on nous met en place, et qui sont des gens peut-être ambigus. C'est-à-dire qu'ils auraient préféré ne pas passer leur temps à faire des demandes d'argent, mais je pense quand même qu'ils vont arriver à s'en sortir. Je sais pas, je veux dire, moi j'ai du mal à faire un diagnostic, mais je pense qu'il y a le pôle de réflexion que représente et de résistance que représente selon la recherche reste important. Même si au jour le jour, les directeurs de petites unités essayent de les bouger, sont obligés pour faire vivre leur laboratoire. Ça reste en vie.
Je vais poser une question.
M'éloigner un peu de remonter au niveau de la main invisible. On travaillait tout à l'heure, vous discutiez sur la main invisible et qui pouvait diriger un peu la tentative même de destruction pour certaines formes de travail intellectuelles. Je me demande si justement l'Europe, en tant que telle, qui n'existe pas, et que le discours ne veut pas être tenu par les hommes politiques européens, qui seraient des techniquement qu'il faut qu'au niveau du territoire européen, il y a une division du travail. C'est une sélection lorsqu'on parle de pôle d'excellence. Est-ce que ce n'est pas volontairement ou induit la sélection sur le territoire européen, à partir des financements de chacun des pays, de certaines zones, de domaines d'excellence sur certains secteurs pour l'abandon d'autres. Et c'est ça, c'est ça la main invisible. Cela dit, elle a un problème, parce que déjà, on est passé à une échelle planétaire. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on parle d'étudiants chinois, on sait très bien l'importance de la recherche développement en Chine, et déjà le fait qu'il y a des circulations importantes d'étudiants, et c'est par dizaines de milliers, qui se passe par exemple entre les États-Unis et la Chine. Donc on se trouve devant une idée qui serait que les politiques européennes étant relativement semblables, puisqu'elles arrivent à dégénérer des zones de conflit quasiment identiques, que ce soit l'année dernière en Allemagne, en Italie, en France, on se demande si c'est pas cette main invisible de l'Europe qui voudrait se faire, mais qui ne pourra pas se faire parce qu'elle est déjà fortement concurrencée par la mondialisation en tant que telle. Donc ça, c'est une question que je pose.
Moi, j'ai eu l'impression que il y avait des discours que j'ai entendus politiques en France, c'était un peu nous, on ne va pas financer cette recherche fondamentale, on est intéressé plutôt à la valorisation, l'innovation, etc. Mais c'est l'Europe qui doit s'impliquer pour financer la recherche fondamentale, un peu comme si c'était. On demande à l'autre de s'occuper de ce problème-là. Donc, moi, je l'ai ressenti comme ça.
Effectivement, au niveau de l'intégration européenne sur la recherche, par exemple, à l'époque de 1910, il y avait un atome. C'est la mise en commun des compétences, etc. Alors, est-ce que ça rentre fortement en contradiction, à mon avis, après des politiques nationales, l'hégémonie sur l'Europe, etc. Comment est-ce que tu vois ça? D'un côté, on porte le débat sur la recherche française, c'est en France. Le débat sur la non-recherche en Italie, c'est en Italie. Le débat. Donc,
où est-ce qu'on en est au niveau de l'intégration, de la création d'une recherche européenne, etc., à dimension continentale?
Non, mais je sais que, bon, par exemple, l'université de Saumon-la-Flèche, on avait une représentante italienne là, pour nous expliquer que c'était bien pire en Italie qu'en France, mais qu'il y avait quand même un mouvement qui ressemblait à Saumon-la-Flèche. Donc, tous ces, je dirais, contre-mouvements essayent de se contacter, mais actuellement, on ne représente pas une force.
Mais au niveau institutionnel,
moi, j'ai du mal. À percer comment les choses sont. Les directives politiques au niveau européen. C'est
la
pas
politique de la recherche européenne n'est pas en place.
J'ai pas l'impression.
C'est vraiment opaque. Il y a effectivement des bandes de concours européennes dans différents points, mais il n'y a pas de stratégie européenne. Il y a une stratégie européenne sur le secteur de l'énergie, de la physique, par exemple. Il n'y a pas une stratégie européenne définie par rapport au secteur, par exemple, de l'énergie. Il y a des plans de concours européens qui essaient de regrouper des équipes de différents pays. Très opaque. Avec elle, là, moi, je pense que c'est des personnes.
Je pense que les entreprises pharmaceutiques aussi.
C'est-à-dire les commissaires européens comptent beaucoup. Beaucoup plus. Et donc là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Vous parlez des stratégies, et donc c'est clair que par rapport à ce que tu disais, l'organisation, pas seulement on est en retard.
Pour le moment,
c'est très bien. Les États-Unis savent garder un certain nombre de ces étudiants et savent après trouver des collaborations avec ces étudiants quand ils reviennent aux États-Unis pour se donner les moyens pour ça aussi.
Ok, je crois que vous savez. On est presque à l'heure, je ne sais pas si il y a encore des questions. Parce que
une dernière question. Une dernière, je ne sais pas si c'est la dernière, mais pour revenir, parce que toujours un peu sur la souffrance, les comportements individualistes, etc., c'est que tu disais tout à l'heure, Jean-Claude, ok, avant, je ne sais pas si c'est il y a 10 ans, etc., pour un étudiant, par rapport à avant, pour un étudiant aujourd'hui, c'est un parcours du combattant, on les décourage. Et est-ce que là, sans vouloir faire forcément un procès aux intentions, il n'y a pas aussi une vraie volonté politique? C'est-à-dire, dans ce parcours du combattant, il n'y a pas qu'un aspect financier, c'est un aspect aussi, comme quoi, on crée une génération de gens qui sont complètement individualistes, qui se battent que, finalement, pour sauver leur peau, pour trouver leur route, etc. Il n'y a pas un peu de ça aussi, non?
Les effets des comportements individuels surgissent forcément dans la recherche, c'est la culture sociale dans tous les sphères de la société, donc si, c'est absolument vrai, c'est-à-dire l'effet justement qu'on ne puisse plus faire de grands discours sur la valeur de la connaissance et qu'on soit par contre. On était toujours en compétition. La chose pour la survie et de façon, les étudiants actuellement, ils arrivent avec une vision extrêmement individualiste. C'est-à-dire,
et pragmatique,
et c'est sauf de leur carrière. Mais ça, c'est pas parce que. Mais ça, c'est pas parce que c'est dans la région. C'est la culture qui est en train de se développer dans l'école et dans toutes les autres sphères de la société. Donc, c'est les fruits de la même culture.
Je suis d'accord avec ça, parce que moi, je vois les étudiants en thèse que j'ai vus récemment dans notre laboratoire, il y avait quand même une solidarité entre eux et sur le partage des informations pour réussir leurs expériences et pour aider à s'en sortir, trouver les bonnes formations. Donc, je pense que quand ils arrivent là, ils ont quand même encore un sens de la solidarité.
Par contre, il y a une note positive, comme souvent les recherches est née d'une ambiance complètement individualiste, mais elle est née d'un mouvement qui a eu un succès, et en train de se souffler par rapport au fait que ce succès n'a pas été permanent, et dont les chercheurs viennent rentrer dans les laboratoires, à mon avis, dans ce sens de pouvoir gagner une bataille. Pour les jeunes, il y a d'un côté effectivement cette façon de les mettre en compétition, de ça, mais de l'autre côté, il y a quand même un mouvement associatif qui est en train de se faire et qui probablement qui est en train de se développer, je veux dire les associations des postdocs, les associations des étudiants, ils ont amené aussi, ils ont beaucoup poussé pour les salaires de aux doctorants, ce sont des réalités quand même très positives dans ce sens. Donc dans les laboratoires, quand même, les gens sont les uns contre les autres peut-être, mais il y a une prise de conscience, à mon avis, qui est assez nouvelle et qui est en train de se développer.
Qui n'est pas solidaire quand il s'agit d'augmenter son salaire?
Ben, les chômeurs. Les chômeurs n'ont pas de salaire, ils ne sont pas solidaires. Il y a des millions de chômeurs.
Il y a des gens qui...
Non, c'était une blague.
Moi, il y a une remarque que je voulais vous faire avant qu'on parte, parce que c'est une remarque que j'ai entendue cet après-midi d'un UPA qui est intervenu là, sur les différents problèmes, et il parlait du fait que la création des grandes plateformes techniques. C'est-à-dire que actuellement, au CNRS, par exemple, on ne renouvelle pas les postes de chercheurs, mais on va créer des postes de techniciens, mais essentiellement pour les plateformes. Et donc là, c'était un technicien qui intervenait en disant qu'ils avaient eu beaucoup de déceptions à travailler sur ces plateformes. Parce qu'au lieu d'être dans un petit groupe sur un projet de recherche défini, tout à coup, on les mettait sur ces grandes plateformes et ça devient beaucoup plus impersonnel. Donc, ils doivent faire marcher une machine, un truc, etc. Et tout à coup, ils se sentent en fait désinvestis de leur participation à un véritable projet de recherche. Donc là, ils décrivaient une souffrance à ce sujet-là. Ils se sentaient diminués.
Oui, c'est très intéressant parce que là, donc, on se rend compte que la souffrance, c'est vraiment un mélange des contraintes, des évaluations, des trajectoires, etc. mais aussi l'environnement extérieur aussi, hein, car une crise économique endémique, dépression, de gens qui sont entre eux, c'est aussi cette dynamique.
Oui, il y a beaucoup de choses qui leur sont imposées. Les acteurs ont peu leur mot à dire. Donc, pour revenir sur l'échec de tous ces mouvements, c'est que je pense que les analyses ont été très fortes et très claires. Seulement, on a affaire à un gouvernement qui continue à passer avec son bulbe vert, quels que soient les critiques qu'on lui a fait. Bon, quelquefois, on résiste. Hein, le CNRS existe encore, on a eu les contrats doctoraux, etc.